Écoutez IDFM en DAB+, DAB+ sur toute l'Île-de-France.
Bonjour à tous, Jacqueline Vora sur Radio IDFM avec Christophe à la technique. Bonjour Christophe. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'économie en direct et merci de nous suivre en direct jusqu'à 11h sur Radio IDFM 98 ou 98.fr avec en plus aujourd'hui le DAB+ qui nous permet d'atteindre toute l'Île-de-France avec 13 millions d'auditeurs. Nous sommes ensemble ce matin, vendredi 18 novembre, pour balayer l'actualité avec ce nouveau numéro consacré à la CPME 95 et la mise à l'honneur de son club Culture et Sport. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Pillard. Bonjour Laurent.
Bonjour Jacqueline.
Merci d'être au rendez-vous. Laurent, vous êtes président donc de la CPME du Val-d'Oise, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Vice-président de la CPME Île-de-France, membre élu de la CCI Val-d'Oise depuis 12 ans et vous êtes aussi chef d'entreprise depuis 1995 de l'ENA Conseil, un organisme de formation pluridisciplinaire et l'agence 46 qui fournit de l'imprimerie numérique. Nous ferons le point avec vous de votre actualité, de vos événements et nous découvrirons ce club culture et sport de votre confédération, l'occasion de s'intéresser au moral des chefs d'entreprise adhérents de la CPME. À vos côtés, Jen Lagesse. Bonjour Jen.
Bonjour Jacqueline.
Vous êtes gérante de l'entreprise Jen's Consulting, un cabinet de conseil aux entreprises en qualité, hygiène, sécurité et environnement, ainsi qu'en responsabilité sociétale des entreprises pour les TPE, PME, PMI. Et vous êtes bien sûr adhérente et administratrice de la CPME du Val-d'Oise.
Tout à fait.
À vos côtés, Benoît Van Overschelde. Bonjour.
Bonjour.
J'ai bien prononcé votre nom, Benoît.
Van Overschelde.
D'accord. Bon, Benoît, je vais vous appeler Benoît.
C'est ça sera plus simple.
Donc, Benoît, vous êtes fondateur et président de l'entreprise EXO, spécialiste du traitement de l'eau et proposant un large éventail de solutions pour les entreprises d'exploitation de chauffage. Bien sûr, adhérent de la CPME du Val-d'Oise, mais aussi administrateur et responsable du club Culture et Sport. Donc bienvenue et merci à tous les trois d'être en direct sur Radio IDFM ou IDFM 98 dans l'économie en direct. Mais tout de suite, des nouvelles par Michel Alexeyev, président de la CMA 95 et vice-président de la CMA Île-de-France, de notre skipper Brieux Maisonneuve, dont le bateau a chaviré dimanche matin. Brieux qui a atterri à Roissy hier avec, à son arrivée, une belle délégation de la CMA. Bonjour Michel.
Bonjour Jacqueline, bonjour à tous.
Oui, nouvelle de notre skipper Brieuc Maisonneuve avec notre bateau CMA Île-de-France 60 000 rebonds.
Oui.
Tout d'abord vous dire qu'il va bien.
Oui.
Nous l'avons accueilli effectivement avec une délégation à Roissy à l'arrivée de son vol. Était également présente Anne, son épouse, et ça a été un grand moment d'émotion.
Mm-hmm, j'imagine, oui.
Bon, Brieuc est physiquement et psychologiquement un peu fatigué, c'est normal, on peut le comprendre.
Évidemment.
Mais il a la niaque et il va rebondir. Mm. Nous l'avons accueilli à l'arrivée du vol en provenance de Delgada aux Açores, où Jean-Pierre Dick l'avait la veille débarqué.
Oui, oui.
Voilà.
Oui, c'est le skipper qui l'a récupéré hein, quand son bateau s'est retourné.
Oui, tout
c'est
à fait.
Ouais.
Et à la suite de son naufrage, Brieuc est resté dans son bateau de à peu près 6 heures du matin jusqu'à 8 heures, tout à fait dans le noir, dans le flotteur droit et dans sa partie de sécurité. Enfin, il avait quand même de l'eau jusqu'à la moitié du corps.
Hein, ah oui, oui, oui.
Avec,
oui, moi j'ai entendu ce matin son interview par Christophe, oui, dans notre matinale, oui, et je trouve, oui, qu'il a fait preuve d'un sang-froid incroyable.
Extraordinairement, ouais, sang-froid. Vous, ouais, savez, quand il a été retourné, le bateau à 106, ça veut dire quoi, 106?
Oui.
Ça veut dire que le bateau est parti de l'avant et a fait un demi-tour complet à 180 degrés, mmh, et il s'est retrouvé à l'envers.
Oui, la tête en bas. Ouais.
Donc, Brieuc était dans la nacelle centrale. Il a pris tous les instruments sur la figure, il s'est fait écraser, enfin bref, mais il est resté peut-être 30-40 secondes à se demander ce qui lui arrivait, mm-hmm, et puis le cerveau réagit très très vite en définitive, mm-hmm, l'instinct de survie,
oui,
qui fait que
survie, oui,
il a rattrapé sa radio VHF, une lampe torche qui traînait, sa balise, en fait, bon, la balise du bateau s'est déclenchée tout de suite, donc, mm-hmm, on a eu évidemment des nouvelles très rapidement, enfin on a quand même attendu un certain temps avant d'avoir des nouvelles de son épouse qui nous, mm-hmm, a rassuré. Mais on était dans un moment de très grand stress parce
bien
qu'on
sûr
avait constaté quand même depuis le matin à 7h30 qu'il ne
donnait plus signe de vie, oui.
Voilà,
Michel,
voilà,
je voudrais, parce que nous aurons la chance d'interviewer Brieuc dans mon émission mardi, donc je pense qu'il va nous raconter tout ça en détail. Moi, je voudrais savoir, vous aviez lancé une, oui, si on peut dire, une bouteille à la mer auprès du ministère de la Marine. On en est où?
Bah, on en est un peu nulle part parce qu'en définitive, personne veut prendre la décision de faire l'effort.
Ouais.
J'ai de surplus rencontré Alain Richard hier soir, à qui j'ai expliqué la situation, qui m'a demandé de lui faire un email ce matin de façon à en parler avec Sébastien Lecornu qui voit dans,
ouais,
la matinée.
Ah oui. Ouais, il faudrait qu'il se
pas
dépêche.
Grand-chose, c'est qu'on demande simplement d'envoyer une balise sur le bateau parce que la balise a fini d'émettre hier soir. Ce qui fait que le bateau dérive devant les côtes espagnoles. Alors on donnera pas, vous comprendrez que je veux pas donner la position,
bien sûr,
du bateau
bien
à
sûr
l'antenne,
mm-hmm,
parce que c'est très dangereux, mais en tout cas les vents sont favorables, le bateau va dériver en remontant vers le golfe de Gascogne, et on a une estimée, mais bon, on sait aussi que par satellite on peut repérer un homme nageant dans la mer si on veut,
ouais.
Bon, ça monte au ministère, alors on est tous sur l'opération, j'espère que quelqu'un va prendre la décision d'envoyer un avion et puis de balancer un filet balise sur le bateau. Mmh. Ça fonctionne normalement, mais bon, voilà, on n'est pas dirigeant de nos opérations de marine et de marine et puis de l'aviation. Donc bon, on attend et on espère que quelqu'un nous aidera dans cette opération.
Oui.
Nous avons lancé une cagnotte.
Oui,
donc,
j'allais vous demander où en est cette cagnotte.
Elle arrive dans les à peu près 30 000 euros.
Ouais, bravo.
Sachant que en ayant fait le point, parce que on devait avoir un bateau qui devait partir de Brest avec Bob Escoffier, mais le problème c'est qu'il y a trop de vent, il y a trop de mer, donc c'est trop dangereux. On va certainement prendre les décisions de prendre un remorqueur à partir de la Corogne. Bon, Brieuc est rentré, donc il va pouvoir, je dirais, réorganiser le départ. Il faut deux plongeurs. Alors, vous savez, comment ça se passe dans ces conditions? Eh bien, on va mettre à l'arrière du bateau un poids de 2 tonnes qui va embarquer un peu le poids de l'arrière du bateau de façon à le faire incliner. D'abord et au préalable, on aura démonté le mât. Mmh. Avec les plongeurs, on remonte le mât, on le met en stabilité sur le bateau remorqueur ou bien Et puis ensuite, on va donc tirer de l'avant du bateau, on va le faire retourner. En même temps et simultanément, il faudra que on pompe l'eau qui va remonter dans les flotteurs et dans la nacelle, de façon à ce que on puisse remonter le bateau, qu'il soit pas plein d'eau.
Voilà. Oui.
Et dans une situation de remorquage, parce que là, on peut pas remorquer le bateau comme ça. Il y a 30 mètres de mât en dessous avec des voiles qui pendent. C'est difficile. Donc voilà l'opération. Et ça coûte. Forcément, puisqu'il faut emmener l'équipe en avion à la Corogne, il y a le préparateur physique du bateau, il y a il y a l'électronicien, Brieux sera là. Vous voyez, c'est toute une opération. Ouais, ouais, et ouais. Ça.
D'où
200 000 euros.
Voilà, d'où l'importance de participer à cette cagnotte.
Voilà.
Je rappelle ses coordonnées, addictivesailing-litchi.com. Et voilà, toutes les personnes qui nous écoutent et qui peuvent participer seront vraiment les bienvenues.
Bien sûr. Et je remercie infiniment les personnes qu'ont donné pour cette cagnotte. Et je tiens aussi également à témoigner du remerciement de l'ensemble des collaborateurs de la CMA Île-de-France, les profs, les apprenants, nos chefs de service, enfin tout le personnel des agents. Et cette immense émotion que nous avons ressentie à la suite du naufrage. Et nous sommes, Jacqueline, et tous avec lui sur le pont, comme
absolument.
On dit, mais sur le pont aujourd'hui de la solidarité.
Complètement.
En fait. Voilà.
Moi, je trouve Michel Alexeïev, je tenais à vous le dire, je trouve que la CMA, elle assure vraiment, et ça, c'est formidable. Michel, je suis obligée de vous quitter.
Voilà, vous le disais mardi, cette opération, c'est pas une opération de pub pour la CMA, c'est plus que ça, c'est un projet pédagogique, c'est
absolument.
D'emmener tout le monde, de montrer à nos apprenants, à nos artisans, à tous ceux qui nous entourent que, en fait, un skipper qui est derrière la barre, à un moment donné, il a un pépin dans sa vie, ben voilà, et il rebondit, et je suis certain que Brieux va rebondir, il a la niaque. Encore plus avec nous. Et il l'a déjà fait, Brieux. Il a déjà rebondi avec 60 000 rebonds, qui, au passage, je le remercie parce qu'il nous a aussi bien relayés dans nos messages. Et profondément, on est derrière lui.
Voilà. Merci beaucoup, Michel. Je crois que Laurent Pillard vous fait un petit coucou, bien sûr.
Coucou, Michel.
Un petit coucou à tous les amis qui sont autour de Laurent. Coucou, Laurent. Et je vous embrasse bien fort. Et puis, à très bientôt.
Nous aussi, on aura l'occasion de vous entendre à nouveau, Michel. À très bientôt.
Oui, et à très bientôt dans notre OP avec la CME, la CPME 95 et d'ailleurs nationale, qui, je dois dire, dedans, c'est pareil. Il y a des belles solidarités et merci Laurent de t'occuper comme tu le fais de notre CPME. Voilà.
Merci Michel.
À
journée.
Bientôt Michel. À bien bientôt. Sûr. Au revoir. Au revoir. IDFM 98 ou 98.fr, ce matin je reçois une délégation de la CPME du Val d'Oise, mais actualité internationale oblige, je vais faire patienter mes invités quelques minutes encore avant de leur donner la parole, puisque nous allons maintenant retrouver au téléphone comme tous les 15 jours pour une chronique intitulée « Le tour du monde en 15 minutes », notre conférencier, chercheur en géopolitique et fondateur du site web « Le monde décrypté », Gérard Vespierre. Bien qu'aujourd'hui, il faudra écourter ce tour du monde étant donné la densité des interventions. Bonjour Gérard.
Bonjour Jacqueline.
Gérard, l'île qui explose en Pologne, vous laissez peu de répit. Ce qui m'amène à vous poser une première question. Après l'explosion de ce fameux missile de fabrication russe en Pologne, faut-il craindre un élargissement du conflit dans l'Est de l'Europe impliquant l'OTAN ?
Ben, écoutez, je pense qu'il faut effectivement raison garder et cela représente plus un accident ou un incident qu'un risque d'élargissement de la guerre, car très très tôt, les États-Unis, par leur système d'observation spatiale, ils peuvent suivre le lancement de missiles partout sur la planète et leur trajectoire ont pu identifier que cet engin était effectivement un engin russe, mais tiré par les Iraniens. C'est une fusée de défense anti-aérienne.
Oui, oui.
Et donc, voilà, elle a loupé sa cible, elle a poursuivi sa trajectoire, elle n'a pas pu se détruire ou s'auto-détruire en vol, et donc, malheureusement, est arrivée en Pologne en faisant de tuer. Donc, de mort. Mais, donc, voilà, c'est un incident. La cause première, fondamentale, est effectivement les frappes organisées par la Russie depuis de nombreux jours et qui visent des infrastructures civiles. Donc, ce sont eux vraiment qui sont les fauteurs de guerre, si je puis dire, et on le sait depuis maintenant 9 mois. Et donc, voilà, c'était un acte de défense de la défense anti-aérienne ukrainienne, mais qui a malheureusement eu cet incident de fonctionnement.
Oui.
Donc, pas de risque d'extension, c'est un incident, donc il n'y aura pas de conséquences autres que de communication et politique.
Bon, ben voilà une bonne nouvelle. Et puisque, Gérard, vous ne retenez pas cette hypothèse, que faut-il craindre malgré tout le plus dans les prochaines semaines dans ce conflit ?
Mais écoutez, je pense qu'il y a un risque important qui est l'éventuelle décision par l'Ukraine d'avoir des attaques sur les infrastructures énergétiques russes. N'est-ce pas, depuis des semaines, la Russie bombarde par missiles interposés les installations donc de production d'électricité en Ukraine. Et donc cela est pratiquement peut être considéré comme un crime de guerre, parce que c'est une décision de s'attaquer aux ressources de la population civile. Mmh. Et donc, depuis ces semaines, l'Ukraine n'a jamais répondu parallèlement en frappant le territoire ou les installations russes de même nature. Donc, combien de temps cela va-t-il durer? Je ne sais pas. Pour le moment, la réponse ukrainienne a toujours été militaire, en frappant donc les défenses russes et les troupes russes, mais pas les installations civiles comme eux sont frappés. S'il y avait un tel changement, là on aurait effectivement une extension du conflit, une intensification du conflit de façon exponentielle. Autre possibilité d'intensification, c'est la décision par l'Ukraine à nouveau, eh bien, de casser le croissant de ce territoire ukrainien depuis la Crimée jusqu'au Donbass, qui est occupé par la Russie, eh bien, de le couper en deux, de façon à isoler les troupes autour de la Crimée. Et donc là, ce serait une opération risquée aussi sur le plan militaire, ouvrant un nouveau front au centre du territoire occupé par la Russie. Donc, voyez-vous, il y a des possibilités, hélas, d'avoir une intensification. Je ne dis pas une probabilité, mais voilà,
oui,
deux schémas qu'il faut garder en tête.
Oui. Merci Gérard pour cette analyse du conflit russo-ukrainien. Alors, quelques mots aussi, on continue notre tour vers l'Iran maintenant. Le monde semble étonné de la durée de la révolte qui est en cours, présente maintenant dans les 31 provinces du pays. Et puis surtout, on craint aujourd'hui plusieurs condamnations à mort de manifestants.
Alors, effectivement, alors sur la durée est le reflet de la profondeur de la crise, n'est-ce pas? Précédemment, en 2019, il y avait eu aussi des émeutes liées à une décision de l'augmentation du prix de l'essence. Il y a eu, d'après l'agence d'information Reuters, 1500 morts, n'est-ce pas, dans la répression. Mais bon, les choses se sont calmées parce que la demande populaire était ciblée sur un point particulier et économique. Là, nous avons affaire à une révolte sociétale, donc il y a une composante importante, la jeunesse, la jeune femme iranienne qui a décidé de prendre son destin en main par rapport à un régime qui lui impose trop de contraintes. Donc là, c'est la société qui se révolte, et ce qui explique à la fois la profondeur de la crise et la diffusion, comme vous le disiez, dans les 31 provinces. Et donc, comme elle est profonde, cette crise, eh bien, elle va durer et elle peut s'étendre si les agents économiques, les travailleurs du pétrole, si les commerçants des bazars, eh bien, se mettent en grève, et s'il y a effectivement des affrontements, cette fois-ci fusil à la main, entre les manifestants et les forces de répression.
Oui, et donc à propos de ces condamnations à mort,
alors la vocation de ces décisions-là, c'est de d'empêcher les jeunes de descendre dans la rue en disant vous risquez votre vie, non pas simplement à cause des forces de répression, mais si vous êtes arrêté, et ça c'est beaucoup plus probable d'être arrêté que d'être tué, eh bien si vous êtes arrêté, vous risquez aussi votre vie. Donc ne descendez pas dans la rue. Voilà, c'est une manœuvre, je dirais, politique et de communication et de répression visant à empêcher, à démotiver la jeunesse de descendre de la rue. Mais à mon humble avis et avec beaucoup de respect pour cette jeunesse iranienne, cela ne sera pas suffisant parce qu'il y a une profondeur de la crise, il y a, pardonnez-moi la trivialité, un ras-le-bol de la jeunesse par rapport à un système qui est en place depuis 43 ans et avec un guide qui a, lui, 83 ans.
Oui, oui, oui. Bon, écoutez, c'est donc dans les deux cas, Russie et Iran, ce sont des affaires à suivre de très près. Vous vouliez nous dire quelques mots sur le G7, mais malheureusement... Gérard, on n'a pas le temps parce que voilà l'actualité de Brieux,
oui,
Maisonneuve.
J'ai suivi la route du Rhum.
Oui, très bien. Merci Gérard Vespierre pour ce tour du monde raccourci. Nous ferons mieux la prochaine fois. Je rappelle que
votre
intervention se retrouvera dans le podcast de l'émission sur le portail de la radio. Et je rappelle également que vos écrits, interviews sur toute l'actualité internationale sont accessibles gratuitement sur votre site www.lemondedécrypté.com. Il suffit de s'abonner. À dans 15 jours pour un nouveau tour du monde, Gérard.
Merci beaucoup et bonne fin d'émission.
Merci, au revoir.
Partout en Ile-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM. The devil.
IDFM 98.fr. Si vous nous rejoignez, c'est l'économie en direct avec notre spécial CPME du Val d'Oise, Confédération des petites et moyennes entreprises du Val d'Oise, avec Laurent Pillard, président de la CPME du Val d'Oise, vice-président de la CPME Île-de-France, membre élu de la CCI Val d'Oise depuis 12 ans, chef d'entreprise de l'ENA Conseil et l'agence 46. Jen Lages, gérante de Jen's Consulting, adhérente et administratrice de la CPME 95, et Benoît Van Overscheld, fondateur et président de l'entreprise EXO et bien sûr adhérent de la CPME 95, administrateur responsable du club Culture et Sport. Voilà. Laurent, merci d'avoir patienté. Hein. L'actualité était un peu dense ce matin. Et pour entamer le débat, Laurent Pillard, si on parlait du moral de vos adhérents et peut-être du vôtre en tant que chef d'entreprise.
Alors, le mien, ça va.
Ça va.
Donc voilà, sur l'ENA, voilà, je vous avais vu la dernière fois, on avait dit que l'hôtellerie repartait, donc tant mieux pour notre économie aussi.
Oui, avec un très beau projet, vous nous aviez expliqué.
Voilà, et donc ailleurs, on a une centaine d'élèves là en employé d'étage en hôtellerie, donc sur quatre sites, Saint-Ouen-le-Maune, Roissy. Et puis bon, on fait pas que du Made in 95, il y a aussi Paris où il y a beaucoup d'hôtels. Donc voilà, on a deux sites sur Paris 12 et un autre sur Paris 15.
Oui, avec des hôtels prestigieux, je me souviens.
Oui, du 4 et 5 étoiles principalement.
Ouais. Donc tant mieux, c'est une belle réussite pour vous. Et alors le moral de vos adhérents?
Le moral des adhérents, il y a un mois, je disais, il y a trois catégories, bas, moyen, haut. Le haut, il a fortement diminué ces derniers temps. Donc je dirais principalement bas et moyen. Pourquoi? C'est que aujourd'hui là les PGE, hier on est dans le dur. Mm-hmm. On commence à rembourser. La CPME nationale a sorti une étude. 15% des chefs d'entreprise se disent déjà en difficulté pour rembourser leur PGE. Donc là on n'est pas dans un moral au plus haut. Bien entendu, on va pas revenir sur cette pénurie de personnel, on entend que ça aujourd'hui, donc tout le temps partout. Mm-hmm. Donc mais elle est existante, pénurie de matériel. Et puis il y a l'inflation grandissante, là tout le monde commence à recevoir des courriers de fournisseurs qui augmentent des plus 10, plus 20% d'inflation à partir du 1er janvier, les tarifs qui vont augmenter. Et puis on a cette fameuse crise de l'énergie.
Ouais, la facture de l'énergie qui va aussi
Et là qui explose exploser. Et yes, c'est parti hein. Donc voilà, la partie électricité, on se rend pas compte, certains chefs d'entreprise ne s'en sont pas rendus compte encore. Sur des TPE, sans faire des millions et des millions d'euros de chiffre d'affaires, la facture va exploser. Mmh. Puisque aujourd'hui, faut savoir qu'en France, il y a deux types de compteurs pour une entreprise. Soit elle a un compteur bleu, donc voilà, qui peut être une électricité qui peut être réglementée avec un bouclier énergétique qui est assuré par l'État, ou qui peut être non réglementée également. En fonction de la taille de l'entreprise. Et puis vous avez le tarif jaune. Alors là, ceux-là, ils ont droit à rien puisqu'ils sont en tarif non réglementé. Et donc, faut savoir que le coût de l'énergie, ce sont des mégawatts qu'on achète, hein, tout simplement. Ouais. Des mégawatts qu'on achetait 80 euros il y a à peu près un mois et demi, deux mois encore. Aujourd'hui, les fournisseurs d'électricité, les premiers, vous les fournissent à 1500 euros le mégawatt. Si je prends mon cas, par exemple, pour ma consommation électrique de mon bâtiment, je passais d'une facture énergie de 4350 euros. Je passais à plus de 77 000 euros par an de facture.
Impossible à résister.
Donc, suite à ça, il y a des courtiers qui se sont mis effectivement sur le marché. On a un courtier adhérent au sein de la CPME sur la partie énergie et qui arrive à acheter des mégawatts comme des traders achètent des barils de pétrole. Et le chef d'entreprise devient maintenant aussi trader, entre guillemets, et achète des mégawatts. Et là, on trouve des mégawatts entre 500 et 1000 euros. Alors, on peut dire que ça devient plus raisonnable. Suite à ça, la CPME nationale a quand même fait le forcing auprès du cabinet de notre ministre Le Maire, qui a assuré un bouclier énergétique en plafonnant
son plan aussi de sobriété énergétique aussi,
et en plafonnant le coût du mégawatt pour les entreprises non réglementées à 320 euros à partir du moment où elles faisaient moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et qu'elles avaient moins de 20 salariés. Mais 320 euros, on se dit, bon, bah, ça va, c'est déjà mieux que les 1500, et, mais c'est sûr que c'est quand même 4 fois plus que les 80 il y avait de mois. Mm-hmm. Alors, sur certaines activités, si on prend l'exemple d'une TPE, si on reprend mon exemple, bah, voilà, ça va se traduire par une facture d'énergie de 4000 qui va passer à peu près 16 000 euros. C'est absorbable sur une entreprise, sur l'activité, c'est absorbable. Mais il y a des activités qui sont très énergivores. Dans les commerçants, vous prenez des boulangers qui ont des fours à faire tourner, vous prenez des, tout ce qui est crèmerie, qui ont des frigos à faire tourner, vous prenez un restaurant qui a des fours, une cuisine à faire tourner, et eux, leur facture d'énergie, qui à l'époque était à peu près de 2 à 3 000 euros par mois, ben là on est en train de leur dire que c'est plafonné, vous inquiétez pas, c'est plafonné, elle sera juste multipliée par 4.
Ouais.
Donc celui qui payait 2-3 000 euros d'électricité, il va payer 12 000 euros par mois. N'oubliez pas que nos amis restaurateurs ont fait 2 ans de Covid sans activité. Ils se sont tous endettés avec des PGE. Donc celui qui a un PGE qui a 6 ou 8 000 euros par mois à rembourser, ben vous faites l'addition des 6-8 000 d'électricité en plus, plus les 6-8 000 de PGE par mois. On arrive à des factures de 12-14 000 euros par mois pour un restaurateur. Je pense que le 1er janvier, il n'y aura pas la lumière dans tous les restaurants, malheureusement.
Et puis, forcément, ces restaurants ne vont pas pouvoir eux-mêmes répercuter ces hausses sur leur repas parce que les gens ne viendront plus.
Ben non, impossible. Ouais, ouais. Et en plus, ça crée il y a un autre problème. C'est cet effet de seuil de plus de 20 salariés, plus de 2 millions ou moins de 2 millions. Enfin, clairement, c'est contre-productif, contre l'économie. L'entreprise qui fait 1,9 million, elle est avec un bouclier à 320, celui qui fait 2,1 million, il a plus de bouclier et ça explose. Mmh. Ça me rappelle un peu ces histoires de quand vous savez, quand il y a des systèmes de paliers, comme il y avait les entreprises avant, on voulait pas passer de 10 à 11 salariés parce que les charges augmentaient, etc.
Oui.
Donc il y avait plein d'entreprises de 10 salariés. Donc là, on va avoir des entreprises avant arriver à 1,9 million.
Qui même réduisaient.
Ouais. Ou après, il y avait les plus de 50, c'était, hop, du coup, il y avait le CE qui se mettait en place. Et là, on est en train de dire pareil, alors faut pas dépasser plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires parce que certaines, et ça va être le cas, vont peut-être passer de 10 000 euros d'électricité à 80 000. Aucun intérêt de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires en plus. Donc c'est complètement incohérent. Faut que le bouclier, faut qu'il soit lissé en fonction du chiffre d'affaires peut-être. Et il faut l'ouvrir. Et voilà, TPE de 2 millions. Aujourd'hui, vous faites du négoce. Quand vous achetez, vous revendez des produits. Si c'est des produits à 1 000 euros, les 2 millions, au bout d'un mois ou deux, vous les avez peut-être déjà fait. Donc voilà, c'est complètement aberrant. Je pense qu'il y a des activités aussi qu'il faut revoir. Je pense que comme il y a eu pendant le Covid des aides plus importantes sur les restos, bah peut-être que le bouclier énergétique, il doit être plus important pour des restaurants qu'une activité de service.
Donc, du pain sur la planche en vue pour la CPME auprès du gouvernement.
Bah, beaucoup de travail. Je pense que ça a été mis en place très rapidement. Hein, le cabinet de Bruno Le Maire, il y a une conférence de presse qui a été donnée avec le président Asselin, à laquelle je participais. En même temps qu'il y avait la conférence de presse, le président Asselin a été appelé pour ce premier bouclier. Alors, c'est une première étape. Mais la montre tourne, hein, on est le 18 novembre, on parle de contrats qui s'arrêtent pour certains le 30 novembre et d'autres le 31 décembre.
Ouais, ouais.
Donc il faut aller vite.
Aller vite, et donc vous nous en reparlerez la prochaine fois que vous viendrez, vous nous tiendrez au courant de
J'espère
de
que vous aurez de la lumière et assez d'énergie pour faire émettre les ondes.
Laurent Pillard, pour parler de choses un petit peu moins tristes, en septembre dernier, vous nous rappeliez qu'en 2022, vous avez créé 3 clubs au sein de la CPME, Culture et Sport, Export, EAF. Thème de votre passage aujourd'hui, c'est le Culture et Sport. Et voilà, puisque nous avions évoqué Export et EAF, je vous laisse nous le présenter, ce club Culture et Sport.
Alors, moi, je vais vous le présenter, je fais juste le démarrage, hein, parce qu'on a quand même fait un appel à candidature auprès des adhérents.
Oui.
Et on a eu une candidature qui a été validée par le conseil d'administration. C'est
vous
celle
êtes
de...
jeté dessus.
Voilà, il a répondu le dernier jour à la date limite.
D'accord.
Donc, c'est monsieur Benoît Van Overschelde, un de nos administrateurs, qui est également membre associé la Chambre de commerce et de l'industrie des services du Val-d'Oise, et candidat aux prochaines élections de conseiller des prud'hommes, donc un très bel engagement. Et donc il a pris en charge ce club. Bon, l'idée c'était que effectivement dans ce club, après le club Export et le club EAF, des entrepreneuriats féminins, qu'on aille aussi à la culture. Les chefs d'entreprise sont comme tout le monde, ils ont le droit aussi de se cultiver, ils ont le droit aussi de faire un peu de sport. Donc on a associé les deux. la question peut se poser, est-ce que c'est la vocation de la CPME ? Clairement, peut-être pas la vocation, mais en tout cas, de partager des moments culturels et sportifs entre adhérents et adhérentes, ça a son sens pour aussi éviter tout cet isolement du chef d'entreprise. Et voilà, je pense que ça a plein de sens. Et Benoît, au-delà de sa candidature, était quelqu'un aussi de très cultivé, où il m'apprend souvent plein de choses, notamment sur l'histoire, et voilà. Et donc je pense que c'était naturel que sa candidature soit retenue.
Ça lui revenait de droit.
Et donc voilà. Alors après, moi, je comme tout ce qu'on fait à la CPME, on décide. Il y a des référents, des représentants, et après, ils ont une carte blanche. Ils sont on leur demande juste de rendre des comptes, mais de nous présenter des projets. Et là, c'est à lui d'en parler, je crois.
Très bien. Écoutez, on l'interviewera tout à l'heure sur le sujet. Moi, j'ai juste retenu justement que la CPME pour la Coupe de rugby fera bénéficier ses adhérents l'accès aux hospitalités officielles pendant la Coupe du monde de rugby en 2023. Et puis aussi qu'il y a des open de golf qui sont organisés par la CPME, donc on est en plein dans le sujet.
Tout à fait, le sport, mais là c'est des partenariats d'un point de vue national.
Oui. Alors un mot aussi peut-être sur la semaine de l'industrie qui se tiendra du 21 au 27 novembre, avec la visite pour vous le 23 novembre d'une société dont nous avons reçu le dirigeant il y a quelques mois. Je vous laisse nous le présenter.
Donc effectivement, visite le 23 novembre. Alors pour mettre le contexte dans l'ordre, en fait on a été labellisé par les services de l'État sur la semaine de l'industrie. Donc une belle reconnaissance aussi pour notre CPME du Val d'Oise. On est labellisé pour la semaine de l'industrie. Et on organise donc plusieurs événements. Et donc le point fort, bien entendu, c'est ce mercredi 23, où on organise une visite dans l'entreprise de Roth Taverny.
Oui.
Entreprise dont le propriétaire est Yves Sageot, qui est également notre référent export au sein de la CPME. Donc voilà, c'est une très très belle TPE qui est sur Taverny. Donc c'est carrément une matinale là qu'on organise avec un accueil vers accueil à 9h. Visite de l'usine de 9h30 à 10h30. Là, on a deux interventions. Une première intervention de la DETS sur les emplois jeunes dans l'industrie. Et une deuxième intervention de Pôle emploi sur des simulations d'embauche et avec des salariés sur la partie industrie également.
Très bien.
Le tout couronné quand même par la présence des directeurs de la DES, des directeurs de Pôle emploi. On a notre préfet délégué à l'égalité des chances, Xavier Delarue, qui sera présent. Et également notre sous-préfet à la relance, Adrien Allard. Bien entendu, quand on parle d'industrie, nous aurons le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Pierre Cuchely. Il sera tout juste rentré de province, pas de l'étranger. Il sera revenu d'étranger et reparti en province. Mmh. Là, il peut pas nous écouter aujourd'hui. Il doit dormir là, à cette heure-là.
Oui, avec le
donc il sera présent. L'événement l'année dernière, on l'avait fait dans une entreprise adhérente, Discopompe, chez Édouard Dupont, que je salue s'il nous écoute. C'était la première fois que j'organisais ça, première fois qu'on le faisait avec la CPME. On était une petite vingtaine. Là, aujourd'hui, on est obligé de clôturer les inscriptions, puisqu'on est arrivé à une centaine d'invités.
Ah.
Donc voilà, gros succès de l'événement. Et qu'on clôturera un cocktail en fin de matinée.
Très bien. Écoutez, bravo. Là aussi, vous nous rendrez compte la prochaine fois du succès de cette visite. Alors, moi, je voudrais aussi rappeler encore et toujours que la Confédération des petites et moyennes entreprises accompagne les TPE-PME au niveau local dans toutes les problématiques du quotidien et rompt l'isolement du dirigeant, et que vous et les membres du bureau avez une réelle proximité avec vos adhérents. Et je peux témoigner que ce n'est pas un vain mot.
Ben, merci.
Alors, une fois par mois aussi, je rappelle que le premier vendredi du mois est organisé un déjeuner très convivial. Et si des chefs d'entreprise veulent vous rejoindre, que doivent-ils faire, Laurent ?
Alors, ils vont sur le site de la CPME95.fr. Il y a toutes les informations, tous les numéros de téléphone. Ils peuvent adhérer en ligne, payer avec leur carte bleue. Voilà, on est 100% digital. Mais bien entendu, ils peuvent aussi contacter Annabelle Dair, notre délégué déléguée, mais bien entendu également Mathilde Morgado, qui est notre chargée de relations entreprises. C'est même elle qu'il faut contacter en priorité. Et je pense qu'elle nous écoute toutes les deux, donc je leur fais un petit coucou.
Oui, on leur fait un coucou, deux collaboratrices adorables. Il y a un numéro de téléphone, 01 34 30 05 76, et puis un site, et donc bien sûr, toutes ces adresses se retrouveront sur le podcast de l'émission.
Très bien, merci.
Merci Laurent pour ce tour d'horizon toujours très instructif, et puis surtout pour votre enthousiasme qui ne faiblit pas malgré la tâche qui vous incombe.
Mais je dis toujours, les chefs d'entreprise, ce sont des optimistes, et restons optimistes.
Merci Laurent. Avant d'enchaîner avec nos deux chefs d'entreprise adhérents de la CPME, je vous propose un peu de musique et on se retrouve juste après.
Il y a des gens du voyage, il y a des gens qui voyagent, des gens qui restent et des gens de passage. Il y a des gens qui planent et ceux qui touchent le fond, des gens qui dorment et des gens dorment son. Il y a des gens divers et il y a des divergents, des gens qui espèrent et des gens d'Abidjan. Il y a des gens du nord, des gens du sud, des vies douces et des vies rudes. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Y a des gens de la haute et y a des gens d'en bas. Y a des gentils, des gendarmes, des junkies et des scars. Des gens qui pleurent, des gens qui rient, des Teddy Riner et des Carla Bruni. Y a des gens Valjean qui mangent leur peine. Oui, des vrais gens qui font de la peine. Des gens qui s'aiment et qui s'assemblent. Des gens différents qui nous ressemblent. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et il y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Y'a des gens de la nuit, y'a des gens du matin. Des gens qui s'ennuient, des agents de mannequins. Y'a des gens qui saoulent et des gens soulageants. Des gens qui rêvent la vie des autres gens. Et y'a des gens changeants et y'a des gens stables. Des affligeants et des remarquables. Des gens de l'est, des gens à l'ouest. Des gens qui vont, d'autres qui restent. Et y'a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Et y a des indignés, des indigents, des déjantés, des commerçants. Y a des gens simples, des gens seuls, des gens chanceux et des gens humbles. Y a des amants, des dirigeants, des gens qui en bavent et des braves gens. Y a des gens gays, des sergents. Et dans tout ça, et dans tout ça. Et dans tout ça, nous deux. Dans tout ça, nous deux. Dans tout ça, nous deux. Et dans tout ça, nous deux.
IDFM 98 ou 98.fr. Avant d'enchaîner avec nos deux adhérents, nos deux chefs d'entreprise adhérents, je rappelle leurs noms. Donc nous avons d'abord Laurent Pillard, Jens Lagesse et Benoît Van Overschelde. Et nous poursuivons ce tour de table avec vous. Je l'ai pas bien dit apparemment. Si.
Très bien, bravo.
Je vous vois écrouler.
Non, c'est le bon soin que vous prenez.
Oui. J'ai peur de bafouiller. Donc, on poursuit ce tour de table avec vous, Jen Lagesse. Vous avez créé votre cabinet en avril 2021. Qu'est-ce qui vous a motivé pour cette création ?
En fait, je voulais pouvoir apporter mon expérience aux petites structures, aux TPE, PME, PMI, parce que j'ai une vingtaine d'années d'expérience en tant que directrice QHSE ou responsable QHSE. Et je voulais pouvoir être un élément qui puisse aider les petites structures qui n'ont pas forcément ces compétences-là pour être vraiment pratico-pratique et les accompagner sur des démarches ou de certification ou des formations ou pour la mise en place de démarches sur la responsabilité sociétale des entreprises ou répondre à des questionnaires EcoVadis également. Donc c'est important qu'ils soient rassurés et qu'ils puissent compter sur quelqu'un
qui connaît bien ce sujet. Peut-être que vous aviez aussi constaté des manques en tant que directrice et que ça vous a donné envie de vous impliquer.
Oui, j'ai travaillé pour des grosses structures et j'ai pu constater qu'en fait les TPE et les PME, PMI étaient un petit peu mises de côté pour un accompagnement en matière de qualité, hygiène, sécurité, environnement ou en RSE.
Oui, d'autant que je crois que là, dans les mois qui viennent, ça va être une obligation de se tourner vers ce domaine.
Tout à fait. C'est dans l'air du temps d'initier une démarche RSE et d'avoir en fait cette approche un peu plus environnementale, un peu plus sociétale et en même temps économique et qui touche aussi la qualité de vie au travail.
Donc, pour créer ce cabinet, vous vous êtes financé par vous-même parce que c'est plus de la matière grise, on va dire.
Exactement, oui, oui.
Et aujourd'hui, la typologie de vos clients, quelle est-elle ?
Alors,
parce que vous parlez des petites entreprises.
C'est mon secteur de prédilection puisque je préfère intervenir dans cette taille de structure. Mais je ne reste pas sur un domaine d'activité. J'interviens aussi bien sur de l'industrie, sur de la mécanique, sur du pharmaceutique, sur de la fabrication de sacs destinés à la sécurité alimentaire. J'ai plein de domaines. J'ai le BTP également. Donc c'est assez vaste comme domaine d'intervention.
Et donc depuis 2021 que vous avez créé cette entreprise, vous êtes contente, vous ne regrettez pas cette implication ?
Du tout. Mais il y a des moments pendant lesquels on se pose des questions, puisque comme disait Laurent tout à l'heure, il y a la solitude du patron, tout à fait, qui intervient quand il y a des décisions à prendre, quand il y a des challenges à relever. Est-ce que je vais être en capacité de relever ce défi ? Et puis faut y aller.
Alors bien sûr, nous l'avons dit, vous êtes adhérente de la CPME du Val d'Oise. Vous êtes également administratrice. Là aussi, ça correspond à ce besoin de retrouver d'autres chefs d'entreprise et de pouvoir évoquer des problèmes qui sont souvent similaires.
Exactement.
Malgré l'activité.
Exactement. Et on se retrouve en fait en discutant, en échangeant entre nous. On est confronté aux mêmes problématiques et souvent on ne sait pas quels sont les bons contacts, quelles sont les bonnes décisions à prendre, vers qui vraiment s'orienter. Et la CPME est quand même une grande aide à ce niveau-là.
Aujourd'hui, nous avons décidé de parler du club culture et sport de la CPME. Et je trouve que ça. Je remercie Laurent de vous avoir invité parce que je trouve que ça fait sens dans la mesure où votre activité justement parle de la qualité de vie au travail.
Tout à fait.
Et que ce club va dans ce sens.
Oui. Aujourd'hui, c'est une orientation vers laquelle les entreprises vont de façon volontaire pour justement fidéliser les salariés, pour justement offrir un environnement beaucoup plus serein. Et ainsi pérenniser un peu l'activité de l'entreprise et l'activité culture et sport peut être un bon élément.
Oui, c'est ça. Ça crée une ambiance de travail productive et apaisée. Et je crois qu'on a pu mesurer le fait que ça diminuait l'absentéisme, par exemple.
Tout à fait. Les turnovers sont revus à la baisse. Les salariés et les personnes autour de l'entreprise, puisqu'on parle aussi de parties prenantes, c'est important d'avoir un environnement qui soit sain et qui soit pérenne pour tout le monde.
Alors, j'ai quand même relevé quelques chiffres, puisque j'ai vu que on a beau parler de tous ces avantages, si 87% des dirigeants ont déjà entendu parler des effets positifs de la pratique d'une activité physique ou sportive, il n'y a que 18% qui déclarent mettre en place ces actions dans leur entreprise.
Oui.
Et donc, il y a du boulot encore.
Oui. Mais c'est pour ça que le club a plein de terrains sur lesquels aller dans ce sens-là.
Très bien. Donc on l'a dit, il y a une baisse de l'absentéisme pour maladie, mais aussi une augmentation de la production, de la productivité, puis l'image de marque positive. Vous-même, vous pratiquez un sport, Jen?
Je pratique plusieurs sports. Je fais du volleyball en compétition.
D'accord.
Je joue d'ailleurs dans l'équipe de Taverny, dans l'équipe une régionale à Taverny, et en FSGT sur la ville de Fontenelle-Fleury. Et je pratique également du karting.
Ah, très bien. Donc vous mettez l'accent sur cette activité auprès de vos clients?
Ah, complètement, parce que c'est aussi ça peut être une forme d'exutoire, parce que c'est une autre fatigue. On crée des relations, on peut faire de belles rencontres, et ça m'est arrivé de rencontrer des personnes dans le cadre sportif et de pouvoir travailler ensuite avec. Et les relations sont assez solides.
Oui, c'est ouais. Ça crée un bel environnement.
Tout à fait.
Aujourd'hui, Jens Lages, quels sont vos besoins?
Aujourd'hui, là, que je puisse accompagner en fait des entreprises qui ont cette volonté et envie de changer les choses dans le bon sens, aussi bien pour améliorer la qualité de vie au travail, aussi bien de réduire l'impact des entreprises sur le plan environnemental, et travailler pour un aspect un peu plus économiquement viable. Voilà.
Très bien. Alors, j'ai vu aussi que vous faisiez partie de l'entrepreneuriat au féminin, donc le club AF de la CPME 95. Vous nous laissez en dire un petit mot, Laurent, de ce club?
Alors, c'est un club en plein essor. Hein. On l'a commencé il y a un an avec une poignée, 5-6 adhérentes. Jen faisait partie des 5-6 adhérentes. Elles ont écrit une histoire. Et aujourd'hui, elles ont fait notamment un dernier événements chez Fassi, sur la zone de Saint-Ouen-l'Aumône. Et plus de 30 personnes présentes, donc de l'entrepreneuriat féminin, qui, je le rappelle, accueille des hommes.
Oui.
Donc ce jour-là, il y avait d'ailleurs 3 hommes présents. Donc voilà, donc le prochain événement de ce club EAF a lieu le vendredi 2 décembre de 12h à 14h, avec notamment un atelier en 360 degrés, où voilà, ils vont décortiquer une adhérente ou un adhérent du club EF, et voilà, faire un 360 sur cette problématique.
Bon, il va falloir que je m'organise, hein, si je veux assister à ce genre d'événement, puisque le vendredi, normalement, je suis pas disponible, mais bon, je vais essayer de m'organiser.
Bah, c'est midi.
Ah, c'est à midi, d'accord, très bien. Donc, le rôle du club EAF, c'est favoriser, promouvoir la prise de responsabilité des femmes dans la vie socio-économique. Vous-même, vous avez d'autres engagements dans la vie socio-économique?
Oui, je fais également partie des Valdoisiennes.
Ah, très bien.
Avec Diane Rosati et Megan Dolmy.
Oui, que j'ai reçu aussi, voilà, déjà plusieurs fois. Très bien. Et vous arrivez à être partout?
Il faut être organisé. Demande, heureusement, il y a les agendas.
Très bien. Donc, vous avez peut-être un message à passer pour ce club AF?
Eh bien, il faut... n'hésitez pas à venir participer à une des réunions des EAF, et l'essayer, c'est l'adopter.
Très bien. Merci beaucoup, Jen Lages, d'avoir été l'invitée de l'économie en direct.
Merci, Jacqueline.
Et puis, on retiendra votre implication et votre activité dans les clubs culture et sport, et puis EAF, l'entrepreneuriat au féminin. Et tout de suite, on va enchaîner avec vous, Benoît. Donc, Van Noverschelde. Schelde, pardon.
On est bon 2 fois sur 4 pour l'instant.
Interdit de rire. Donc, Benoît, vous, c'est en 1997 que vous avez créé EXO. Comment est née cette entreprise?
Suite à un licenciement.
D'accord.
Bêtement.
Vous étiez déjà dans ce domaine?
J'étais dans ce domaine depuis 17 ans. Bon, je m'occupais d'une société et j'ai été très mauvais, donc on m'a remercié. Et donc je suis reparti, j'ai rebondi tout seul comme un grand, et j'ai créé cette société.
Quand vous dites que vous avez été très mauvais, ce sont eux qui le disaient.
Je pense, oui.
Bon, et donc quelle est l'activité de votre entreprise?
C'est très spécialisé.
Nous intervenons... Parlez bien en face du micro,
donc,
Benoît.
Nous intervenons dans les chaufferies d'immeubles et en fait, on va être le médecin de l'eau. C'est-à-dire qu'on va injecter des réactifs chimiques pour éviter tous les problèmes de corrosion dans les circuits d'eau d'un immeuble. Et on va aussi pratiquer des traitements préventifs de chloration pour limiter la prolifération de légionelles, de choses comme ça, qui sont très dangereuses pour la santé des utilisateurs.
Donc c'est grâce à vous que l'on boit de l'eau saine et potable?
Absolument pas.
Non? Ah bon, j'ai rien compris alors.
Là, pour se laver par contre, oui.
En fait, on va s'occuper que de l'eau qui est dans l'immeuble. L'eau arrive parfaitement conforme sur l'entrée d'un immeuble.
Oui.
Et donc après, ce sont la stagnation, la circulation dans l'immeuble qui vont en fait la dégrader.
Oui.
Donc ce qu'on va faire, c'est justement intervenir, injecter des réactifs de façon à ce que cette eau ne se dégrade pas et ne dégrade pas l'ensemble des équipements de l'immeuble. Alors les équipements de l'immeuble, ça peut être la chaudière, les radiateurs, les canalisations en acier, enfin, etc., etc.
Et donc, qui sont vos clients ?
Uniquement, on travaille, comme on dit, en B2B.
Oui.
J'ai appris un mot là.
B2B. Oui.
Donc les mainteneurs. Donc le mainteneur, c'est la société d'exploitation de chauffage.
Très bien.
Qui elle travaille pour le syndicat des copropriétaires.
Le syndic de copropriété, voilà.
Donc je ne suis que sous-traitant.
Oui, c'est ça, vous n'êtes pas en direct, vous, avec les syndics de copropriété.
Jamais.
Et est-ce que c'est une activité qui est très concurrentielle ?
Oui et non.
À part ceux qui vous ont viré.
Ils n'existent plus, ils ont déposé le bilan, malheureusement.
Vous les avez peut-être, assassinés.
Peut-être, je ne sais pas. Et donc, on est. En fait, il y a des grandes entreprises internationales, des groupes américains qui sont énormes. Et après, il y a, au niveau service, sur, je dirais, le cousu humain, les petites mains qui vont dans les chaufferies, ce ne sont que des petites structures.
Mm-hmm.
Donc là, à 25 personnes, 25 salariés, on fait partie des sociétés déjà importantes.
Les plus importantes.
Ouais. Sur l'Île-de-France, en tout cas.
Très bien. Alors, Benoît, vous avez entendu Laurent nous parler de la crise énergétique et je crois que c'est un problème auquel vous êtes vous-même confronté aujourd'hui. Je vous laisse nous expliquer.
Oui, je voulais rajouter un petit quelque chose par rapport à ce que disait Laurent tout à l'heure. Donc, il a parlé des tarifs jaunes. Existent les tarifs bleus. Donc, nous, dans nos locaux, nous sommes tarifs bleus. Nous avons 36 KVA souscrits. On a eu la bonne surprise de recevoir un courrier de notre fournisseur d'énergie qui nous disait, ben voilà, vous payez 13 centimes d'euros le kilowatt et ben vous allez passer à 36 à partir du 1er janvier 2023. Bon, d'accord.
Presque
donc,
3 fois plus.
Nous, on est sur un budget de 10 000 euros annuels en électricité, hein, puisqu'on a opté pour le tout électrique, on est très RSE, on a la pompe à chaleur, on a tout mis en place. Mmh. On peut plus faire d'autres économies d'énergie dans le bâtiment. Et ben voilà, on va passer de 10 000 euros à 30 000 euros à partir du 1er janvier 2023. Les charges augmentent d'un coup comme ça, c'est multiplié par 3 et on peut rien faire d'autre. Hier, je reçois aussi la quittance d'assurance pour l'année prochaine, pour la flotte. Donc on a 22 véhicules qui sont tous... On n'a plus de gasoil, on a supprimé tous les véhicules diesel.
Oui, vous avez vraiment...
On est en électrique sur les véhicules de service ou en essence hybride. Et en fait, l'assurance m'augmente de 21% la flotte, sans qu'on ait beaucoup plus d'accidents ou une sinistralité. Donc en fait, voilà, ça va faire 7 000 de plus. Hein, on passe de 30 000 à... 36 000 d'assurance. Voilà. Et donc, on arrive déjà à 26 000 euros de charges. J'ai pas encore commencé l'année 2023.
Alors que vous avez pas commencé,
Et il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc, je sais pas comment on va faire. Donc, je suis pas spécialement, j'étais un grand optimiste. Et là,
vous commencez à vous poser des questions sérieuses.
Ouais. Voilà. Mais on n'est pas là pour parler de ça, je crois.
Bon. Ça en fait partie, puisque ce problème de énergétique est un. Enfin, il faut en parler encore et encore. J'ai noté que ces frais ne vous empêcheront de verser un complément de salaire comme vous l'aviez fait au mois d'août.
Au mois d'août, on a compensé les salaires. dirais sur l'année 2022, on est supérieur au coût de la vie dans l'entreprise pour les salariés. Mais c'est vrai que là, au 1er janvier 2023, ça va être difficile, quoi. Mmh. Parce que les 26 000 euros que j'ai déjà donnés en charge supplémentaire, c'est quasiment, le poste d'un salarié.
Oui,
donc,
absolument.
Enfin, hors charge, bien évidemment, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué.
Oui, c'est ça va devenir une équation difficile. Alors, Benoît, pour parler également de choses moins tristes, comme je disais avec Laurent, vous êtes le adhérent et administrateur de la CPME du Val d'Oise, et vous êtes le responsable de ce fameux club Culture et Sport.
Oui.
Après avoir postulé et avoir été élu.
J'étais le seul candidat.
Oui, c'est ça, j'ai bien noté. Quel est votre programme pour ce club?
Alors déjà, la démarche, comme le disait Jen, on est vraiment dans une démarche RSE. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas été vraiment compris encore. Je n'ai peut-être pas suffisamment insisté là-dessus, mais par les membres de la CPME. Avant que ce soit les chefs d'entreprise qui s'amusent, c'est plutôt justement entrer dans une
cette
participation
démarche.
Avec Point Commun, qui en fait s'occupe du théâtre du Louvret et du théâtre 95, pour inciter les chefs d'entreprise à devenir mécènes de Point Commun et d'apporter en fait une contribution financière qu'ils choisissent. Et en échange de cela, ils ont des places pour leurs salariés. Donc là, on est vraiment dans la démarche RSE.
Absolument.
Que Jen a décrite tout à l'heure. C'était pas vraiment la culture du chef d'entreprise, c'était plutôt le développer la culture au sein de l'entreprise pour correspondre à cette responsabilité sociétale et environnementale.
Oui, là, il y a une extension.
C'était initialement, c'est ça le projet.
Ouais. Hein,
c'est-à-dire, en fait, participer en tant que chef d'entreprise, devenir mécène et offrir aux salariés la possibilité d'effectivement de recevoir des places.
Très bien, très bien.
Et donc régulièrement, je suis devenu mécène de Point Commun et régulièrement, je reçois des places, enfin des programmes que je peux proposer aux salariés de façon à ce qu'ils peuvent aller participer. Et c'est juste local, puisqu'en fait, les Louvrets, c'est Pontoise et Théâtre 95, c'est Cergy Centre.
Oui.
Donc c'est vraiment immédiatement disponible, quoi.
Et je crois que c'est Christophe qui a reçu la responsable de Point Commun cette semaine. Christophe, vous avez reçu la semaine dernière alors. Et comment sont accueillies ces places de théâtre que vous offrez à vos employés?
Très favorablement.
Très favorablement, ouais.
Oui.
Forcément.
Bon, ça fait toujours plaisir d'avoir des places de spectacle. Bien que leurs places ne sont pas très chères non plus. Mais ce que je veux dire, oui, c'est...
Oui.
Et puis ils organisent de très beaux spectacles, en fait.
Oui, c'est une... parce que, ça, comme vous dites, ça ne coûte pas forcément cher, mais on n'a pas l'idée d'y aller, de réserver. Et là, comme c'est offert, c'est plutôt facile.
Voilà, et c'est dans le cadre de l'entreprise. Ça permet à l'entreprise de donner à ses salariés des possibilités de voir, de participer à la culture locale, quoi, en fait.
Et alors, pour la partie, pour le domaine sportif, vous avez aussi un projet?
Oui. Donc là, c'est tout nouveau. Hein, ça a été décidé en septembre. Oui, effectivement, les jockeys nous ont déjà un peu contactés pour nous
avec
offrir des
Christophe
places.
Cuisin.
Donc là, ça va plus concerner, je pense, les chefs d'entreprise plutôt que les salariés. Donc
d'accord.
La démarche est totalement différente. C'est plutôt l'amusement du chef d'entreprise là qui est recherché.
Très bien. Mais il n'empêche que les chefs d'entreprise peuvent peut-être aussi inviter leurs salariés,
leurs clients, fournisseurs, partenaires,
des jokers. Hein.
Et ça, je leur déconseille fortement. Après quelques contrôles URSSAF, un peu. Voilà.
Bon.
Donc c'est pas autorisé.
Comment votre nom, monsieur?
C'est pas autorisé. Je ne le fais plus.
Non, moi je pensais plus à la partie, est-ce que vous allez encourager les adhérents de la CPME, comme le fait Jen auprès de ses clients, à inciter leurs salariés à avoir une activité sportive?
Alors là, vous me parlez en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'administrateur?
Les deux. Est-ce que vous-même, vous êtes favorable à ce projet?
Là, en fait, j'avoue que... à cette veille de 2023, je ne sais plus.
Je ne sais plus où
j'en suis.
Compte tenu de tous les problèmes qui se profilent.
Surtout les difficultés à recruter les salariés, mais ça, on a dit qu'on n'en parlait pas, donc on n'en parle pas. Aux difficultés de les conserver. Parce que, bon, 25 salariés, j'ai un turnover énorme en ce moment. Donc, c'est compliqué, oui. Et on n'avait pas ça avant. Enfin, avant, il y a vraiment une fracture réelle depuis 2020. Il y a eu l'avant-Covid et l'après-Covid. Et c'est vraiment une fracture très franche et très profonde.
Oui, qui déstabilise probablement le chef d'entreprise.
Mais pas que le chef d'entreprise. Hein. Enfin, l'autre jour, là, j'ai assisté à une remise de diplôme MBA de l'ESSEC. Et en fait, ce thème est récurrent dans leur discours à tous ces éminents professeurs qui encensaient leurs jeunes diplômés, mais qui leur disaient qu'en fait, oui, là, ils avaient un monde à reconstruire. Parce qu'il y a eu une fracture sociale, enfin sociale, je ne sais pas s'il y a des sociales ou sociétales, ou, je ne sais pas ce qu'elle est, cette fracture, mais elle est énorme. Et je ne sais pas. Et là, c'est vrai qu'on est un peu aveuglé.
Oui.
Donc, leur faire du sport, oui, pourquoi pas. Là, j'avoue que pour l'instant, j'ai pas réellement l'idée à ça. Enfin, je ne pense pas à ça du tout.
Oui, vous n'y pensez pas. Et peut-être que ça pourrait être une issue pour donner envie à ces salariés de rester dans l'entreprise.
Je ne sais pas ce qu'ils veulent.
Oui, vous ne savez pas. C'est compliqué.
C'est très compliqué. J'ai plus les repères.
Oui. Et c'est vrai que vous parlez de ces turnovers compliqués, mais il y a aussi, on note des entreprises qui annoncent la suppression d'emplois. Et moi, j'ai noté là que Facebook a annoncé la suppression de 11 000.
11 000, oui.
Meta, oui.
Oui, c'est un septième de l'effectif.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que tous ces grands groupes américains devancent la crise. Parce que moi, les augmentations de 10, 15 % sur des équipements produits par des grosses entreprises américaines en France, mais qui y appartiennent, ont déjà augmenté de 10-15% ces deux dernières années, mais des augmentations régulières. Hein, c'est tous les semestres, c'est 8, 9, 10, 15. Enfin bon, bref, il faut se battre un petit peu, il faut négocier. Et en fait, là maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont fait les profits et ils vont commencer à dégraisser. Mmh. Mais ils ont toujours un coup d'avance, quoi. C'est toujours un an par avance. Et nous, petites PME, on subit tout.
On n'est pas, vous n'êtes pas structuré pour pouvoir anticiper de cette façon.
On n'a pas la possibilité d'augmenter. Là, je vois les institutionnels, la compagnie d'assurance peut augmenter de 21%. Moi, si je dis à mes clients, j'augmente de 21%.
Vous n'avez plus de clients. C'est ce qu'on disait pour les restaurateurs tout à l'heure.
Voilà. Ouais.
Et vous l'avez négocié avec votre assurance ou pas encore?
J'ai reçu ça.
Vous allez prendre
C'était la surprise de la journée.
Du chef.
Voilà. Donc, j'ai tout de suite envoyé un mail à mon courtier en disant que c'était absolument impossible. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais on va nous prétexter que la carrosserie a augmenté, que la main-d'œuvre a augmenté, que tout a augmenté, en fait.
Oui, mais sauf que vous, en regard, vous ne pouvez pas augmenter vos tarifs de cette façon-là.
Je ne pense pas, non.
D'autant que j'imagine que vous travaillez avec des contrats.
Tout à fait.
Des contrats annuels. Hein. Oui, donc voilà.
Voir des contrats signés pour 3 ans avec certains grands groupes.
Donc oui, une grande difficulté. Laurent Pillard, vous voulez commenter un petit peu le désarroi de Benoît, il faut le dire.
Chaque jour suffit sa peine, c'est ça qu'on dit, non?
Ouais. Et je suis un optimiste.
Effectivement, Benoît est un optimiste, mais voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est dans le moral, il y a 2 mois, on disait il y avait du bas, du moyen, du haut. Et vous voyez, le haut de Benoît, on l'a plus. Il est plutôt passé en moyen bas. Et pour tout le monde, c'est comme ça. Et 2023 va être très, très, très compliqué. On annonce depuis longtemps que ça va être compliqué. Mais là, on va arriver au bout d'un schéma, au bout d'un système. Tout va augmenter. Il l'a dit, à cause de la crise de l'énergie, il ne pourra pas continuer à faire maintenir des niveaux de salaire. Donc socialement, ça va devenir compliqué pour qui? Pour ses salariés, qui eux vont voir leur facture d'électricité augmenter, leurs produits ménagers, alimentaires augmenter, etc. Donc ça va devenir un gros, gros problème en France et ailleurs, mais déjà en France.
Oui. Oui, c'est clair. Vous, Jens Lagesse, vous avez comment gérez-vous ces problèmes énergétiques pour vous-même et puis auprès de vos clients?
Moi personnellement, je me déplace énormément en voiture,
oui.
Parce que j'ai ce besoin d'être sur le terrain auprès de mes clients et j'interviens pas que en région parisienne. Quand il y a eu pénurie d'essence, ça a été un peu difficile de pouvoir caler des déplacements et d'assurer en fait ces prestations directement chez le client. Et pour en revenir en fait sur le moral des salariés qui sont quand même, on va dire que le confinement a changé le mode de perception en fait du monde du travail.
Oui, les ça gens a changé les paradigmes un peu. Oui.
Exactement. Donc on est dans cette période où on recherche un peu nos références parce que tout a changé. Maintenant, les personnes préfèrent être payées un petit peu moins, mais avoir une qualité de vie un peu plus intéressante pour eux, passer plus de temps avec la famille. Et les différents confinements, tout ce qui a été Covid, n'a pas aidé et a plutôt accentué ce besoin de se retrouver, d'être dans cette recherche de bien-être. Mais je pense aussi que les personnes ne sont pas encore fixées sur ce qu'ils veulent réellement.
Oui, vous pensez que c'est pour ça qu'aujourd'hui les entreprises ont de grosses difficultés à recruter?
Oui, ça je le vois assez fréquemment chez mes clients, oui.
Très bien. Bien, mais écoutez, c'était bien de pouvoir parler quand même de culture et sport à travers ce contexte compliqué. Ça peut peut-être malgré tout garder le moral des gens. Il faut l'espérer.
Oui, il faut.
Il faut. Donc Laurent, votre prochain gros événement, on a dit que c'était la semaine de l'industrie.
Donc le 23, suivi du 2 décembre pour les EF qui font donc un atelier repas. Et il y a le 8 décembre, il y a un save the date sur une soirée élégance, de la CPME.
Donc voilà, on va mettre nos plus beaux habits.
Voilà,
il y aura paillettes.
On a dit paillettes.
Il y aura il y a un dress code. Vous recevrez les adhérents vont tous recevoir le mail avec les indications. Il manque plus qu'à mettre le lieu sur ce save the date.
Voilà, une belle surprise, je crois, en perspective.
Énorme surprise.
Énorme surprise.
Sans doute pour moi aussi.
Merci. Alors merci Benoît Van Overschelde de Exo de nous avoir transmis vos sentiments et puis on espère pour vous que les choses s'arrangent.
Les choses là aujourd'hui vont pas mal du tout.
J'ai
pas de problème.
Au niveau de votre chiffre d'affaires, ça va bien.
Cette année 2022, on est parfait. Enfin, je veux dire, c'est pas transcendant, mais on est bien.
C'est ça.
Mais c'est qu'en fait, là, les charges vont augmenter tellement que je sais pas comment ça va se passer.
Oui. Bon, écoutez, de toute façon, ce sont des affaires à suivre avec la plupart de mes invités, en général, mais en particulier la CPME qu'on reçoit très régulièrement. Merci à tous les trois. Avant de nous quitter, je vous redonne la parole pour quelques mots de conclusion. Alors, je vous donnerai la parole en dernier, Laurent, si vous voulez, parce que quand même, parole au président. Donc, Jen Lagesse, un mot de conclusion avant de nous quitter.
Eh bien, je vous remercie de nous avoir reçus et de nous avoir permis de mettre un petit peu en lumière le club nouvellement créé au sein de la CPME. Et faire du sport.
Voilà. Merci. Faire du sport pour rester en forme. Benoît, un mot de conclusion.
Voilà. Donc, vive les EAF, ça c'est sûr.
Oui,
merci.
Oui, heureusement qu'on a au moins ces repas de convivialité au sein de la CPME. Je dirais, c'est une fois par mois, mais c'est vraiment un moment où on peut se retrouver, se marrer un peu, oublier le quotidien, et ça fait beaucoup de bien.
Ça
a toujours été en fait un des... Bon, c'est pour ça que j'ai adhéré à la CPME d'ailleurs, c'est pour le repas.
C'est pour déjeuner.
Pas que quand même.
Non, en fait la CPME c'est aussi un engagement syndical, puisque nous sommes un syndicat. C'est pour ça qu'en fait, comme Jeanne, j'ai candidaté pour être représentant CPH, parce que pour moi en fait toutes ces valeurs sont très importantes.
Alors CPH, rappelez-nous ce que c'est.
C'est conseiller prud'homal, donc je serai conseiller prud'homal si je suis retenu, élu, pour la partie CPME, c'est-à-dire pour la partie patronale. Mais je veux dire, ce n'est pas avec un regard de patron que je compte regarder les affaires qui se présenteront. C'est en fait, c'est
oui, ce qui se passe. Un regard de travailleur.
Voilà. Il y a des patrons voyous, il y a des salariés voyous. Les deux peuvent être voyous, les deux peuvent être très très bien. Donc en fait, c'est un peu pour ça que les prud'hommes sont là. Donc oui, c'est un engagement syndical aussi de ma part. Bon, je pense que vous l'avez compris, je suis assez RSE naturellement.
Oui, oui.
Je valide. Voilà.
Bon, on a fait aussi une étude RSE il y a 2 ans déjà. On est excellent. Donc c'est parfait.
Bravo. Bravo.
Bah oui, on a changé, on a remplacé tous les véhicules. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on avait déjà mis en place. Je savais pas que j'étais RSE et je l'étais en fait.
Oui, vous l'étiez, oui. Voilà. Et ce genre de démarche, il me semble, fédère les employés lorsqu'elle est en route.
Oui, mais en fait, bon, moi je l'ai fait pour des raisons financières, c'est-à-dire en fait, voilà, je travaille pour Veolia et Veolia m'a dit, voilà, vous devez faire la démarche RSE, il faut aller chez Ecovadis. Bon, j'ai dit, Ecovadis, c'est qui? J'avais pas envie d'Ecovadis, je vais pas aller. En fait, eux ont une démarche RSE et vous forcent à avoir une démarche RSE en payant cette démarche RSE pour eux. Et donc là, non, moi j'ai dit, je vais faire ma démarche RSE. Donc j'ai pas pris de jet, je la connaissais pas à l'époque, malheureusement. Voilà. Donc on a pris une autre personne qui nous a fait cette démarche RSE.
Voilà. Très bien. Laurent Pillard, merci. Merci Benoît. Laurent Pillard, voilà, le mot de la fin, c'est pour vous.
Alors, très très rapidement, ben, merci Jacqueline de votre accueil. Merci
c'est un
Julien,
plaisir toujours, vous
à la
savez.
Technique. Et je voudrais remercier vraiment Jen et Benoît pour leur disponibilité au sein de la CPME, pour la CPME, pour leur engagement. Ils vous l'ont expliqué, là, notamment avec... les mandats CPH qui arrivent, CPH donc prud'homme, il faut dire que c'est un engagement quand même qui va leur prendre quasiment une journée par semaine.
On avait dit.
Entre une demi et une journée.
Ça y est.
Par semaine, mais même si c'est qu'une demi-journée, vous vous rendez compte de cet engagement qui est entièrement bénévole. Voilà, il est important. Vous savez que c'est une grande famille la CPME. Et ils font partie des administrateurs quand il y a un adhérent qui appelle Annabelle, qui a un problème, etc. Ce sont deux personnes sur qui on peut compter, on peut se renseigner, ils vont aider l'adhérent, l'accompagner dans telle ou telle démarche. Donc voilà, je tenais vraiment à les remercier de leur présence aujourd'hui, mais de leur présence en tant qu'adhérent de la CPME. Et enfin, j'ai une dernier message. J'embrasse très fort Marie-Ange qui nous écoute. Voilà, merci.
Ah, bien, ben nous aussi, on l'embrasse, Marie-Ange.
Et merci à notre président. Bénévole également.
Laurent, quand ont lieu ces élections des prud'hommes?
Alors, c'est pas des élections, ce sont des dossiers qui ont été déposés. Alors, les dossiers sont épluchés, hein. Extrait judiciaire, enquête auprès. Oui, c'est ministère de la justice qui étudie les dossiers. Et il y a eu des demandes de pièces complémentaires, etc., sur beaucoup de dossiers. Ils sont de plus en plus regardants sur les dossiers. Mais voilà, on arrive au bout. On est quasiment sûr que les dossiers qui ont été présentés par la CPME vont être validés. Bon, des fois, on a des mauvaises surprises. Il y a un ou deux candidats sur qui le dossier
ne peut pas être...
qui ne sont pas retenus. Il manque quelque chose, une pièce qui ne va pas.
Généralement, c'est moi, ça.
Benoît a longtemps été dans ce cas-là. Il a failli ne pas être élu membre associé de la Chambre de commerce. Ça s'est fait à quelques...
Il est toujours passé sur le fil.
Bon, c'est pour ça, quand il a été élu pour le club culture et sport, on avait envoyé 2 emailings, l'emailing de candidature et un autre emailing en disant à tout le monde, ne vous présentez pas. Il y a Benoît qui va se présenter. Et comme on était sûr qu'il allait avoir une fonction. Il était super content et tout. Donc... non, voilà. Donc, c'est très sérieux les CPH. Ça rigole pas. Et on a une autre élection qui arrive le 21 novembre. C'est l'élection des nouveaux juges du tribunal de commerce. Voilà, je peux pas en parler pour l'instant. C'est très discret comme et ça va être officialisé pour les deux listes. De toute façon, c'est des arrêtés, hein,
bien sûr.
Donc ils vont être faits ministériels. Donc voilà, les arrêtés vont tomber. Donc on a aussi des candidats CPME dans les nouveaux juges du tribunal de commerce de Pontoise. Je salue le président Stéphane Staffer, qui a ouvert aussi la porte à tout le monde et notamment la CPME.
Très bien, ben, bravo et merci Stéphane Staffer. Laurent, aussi un mot sur votre nombre d'adhérents aujourd'hui, parce que je sais que vous avez un objectif.
Ouais, l'objectif. Cet été là, au mois de cet été, printemps, été était un peu stagnant. Bon, la période peut-être. En tout cas, Mathilde Morgano, là, notre chargée de relations entreprises, a repris vraiment bien du poil de la bête après les vacances au mois de septembre, avec un nombre d'adhérents en conséquence. Elle est désormais également aidée par un des administrateurs, notre vice-président Vincent Bosch,
oui.
Vice-président industrie, donc qui l'accompagne dans sa démarche pour lui filer un coup de main. Et là, on arrive à nos 350 adhérents. C'est bien, l'objectif des 400, il sera là au mois de mars, et ouais. Je rappelle que ça sera 500, mais en mars 2024.
Bravo, parce que quand vous avez été élu, vous aviez cet objectif de 300, ouais, et donc vous l'avez déjà dépassé.
On l'a dépassé, là, à Noël, on atteindra, je pense, les 370, et on serait arrivé donc au plus haut niveau de la CPME du Val-d'Oise, puisque c'était 350 du temps de Pierre Cuchely à l'époque, il y a 6 ans.
Très bien, bah écoutez, félicitations,
ben Laurent, merci.
Félicitations. Et en même temps, ça ne me surprend pas.
Oui, mais tout se fait pas tout seul. Hein.
Oui, je sais, mais
il faut une équipe.
Il faut un bon capitaine à bord quand même. Merci Laurent, merci à tous les trois d'avoir été en direct pour
merci
votre
beaucoup.
Participation dans l'économie en direct. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Christophe pour la technique. Retrouvez Christophe qui me fait un grand signe pour me dire qu'il est content que je le remercie. Retrouvez à tout moment cette émission en podcast sur le site de la radio IDFM 98 ou 98.fr, mais aussi sur notre application mobile qui permet de nous capter dans le monde entier. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Mardi prochain, je recevrai le MEDEF Île-de-France et nous parlerons apprentissage et salon de l'emploi. Alors à mardi. D'ici là, excellent week-end et prenez soin de vous.
France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
En vertu des boîtes qui me sont conservées,
selon la dégustation des doigts de la pomme,
je déclare la séance ouverte.
Mesdames et messieurs, la cour de la cour de récré, avocat du jardin, mise en délibéré, vous voici prévenus, veuillez vous éveiller, la sentence est rendue, vous pouvez respirer. La cour de Maracassation vous assigne à la prudence, après délibération du tribunal de grande danse, le monde vous condamne à l'humanité, l'avenir vous dédouane, vous devez respirer.
Vous faisiez la sourde oreille lorsque nous chantions à tue-tête de laisser les abeilles butiner sur la planète. Le verdict est tendu, c'est pour l'éternité. La scène est capitale, vous devez respirer.
Mesdames et messieurs, la cour de récré, avocat du jardin, mise en délibéré, vous voici prévenus, veuillez vous éveiller. Le silence est rompu, vous devez respirer.
Mesdames et messieurs les jurés de la cour de récré, nous avons fait le tour. Après moulé débat, selon les modalités prévues par la voix, vous pouvez respirer.
Procureur des jardins publics, avocat du bardeau,
marche extra partie civique, peuple des tribunaux.
Nos procès sont finis, le coupable est résigné, la sentence est jolie, vous pouvez respirer.
Mesdames et messieurs, la cour de récré, avocat du jardin, mise en délibéré, voici prévenu, veuillez vous éveiller, la sentence est rendue,
vous devez respirer. La mesure se balance, l'audience nous appelle, la présidente danse, la greffière se rebelle, la vindicte est populaire, la sentence est prouvée, veuillez noter notre air, vous pouvez respirer.
Mesdames et messieurs, la cour de récré, avocat du jardin, remise en liberté,
vous voici devenu enfin libre.